Éthique, 1er mai 84, Père Philippe, Saint-Joseph.
Petite question. Ça remettra en route sur l'éthique. Pourquoi dit-on que la vertu de prudence est sagesse? N'est-ce pas plutôt le fait de la vertu de religion? On dit que la vertu de prudence est sagesse parce que elle est du côté de l'intelligence, que la sagesse est du côté de l'intelligence, tandis que la vertu de religion est du côté affectif. Première raison. Deuxième raison, c'est que la vertu de prudence joue un rôle absolument général à l'égard de toute notre vie pratique, comme la sagesse ordonne toute notre vie, non seulement pratique, mais aussi spéculative, aussi contemplative. Donc, dans l'ordre de la vie morale, éthique, la prudence joue un rôle analogue à la sagesse par rapport à toute la vie humaine. C'est dans ce sens-là que c'est une sagesse pratique. Tandis que la vertu de religion ne joue pas le même rôle. Elle est, au point de vue affectif, quelque chose de très universel, c'est très vrai, mais on ne peut pas dire que la vertu de religion détermine toutes nos autres activités. La vertu de religion apporte une nouvelle finalité, mais pas une nouvelle détermination, alors que la prudence et la sagesse apportent un ordre. Le propre du sage, c'est d'ordonner. Le propre de l'homme prudent, c'est d'ordonner. Vous ne dites pas le propre de l'homme religieux, c'est d'ordonner. Non, pas du tout. Il y a des hommes très religieux qui sont très désordonnés. Ça existe. Vous voyez bien, il y a des dévotions qui ne sont pas du tout ordonnées. Pas du tout. Tandis que le propre de l'homme prudent, c'est d'être ordonné. Il y a des gens qui sont extrêmement religieux, mais qui sont complètement désordonnés. Ça arrive. Ce n'est pas précisément la vertu de religion qui vous apporte un équilibre et un ordre. La prudence, oui. La sagesse, oui. Mais c'est toujours par le point de vue de l'effet. Le propre du sage, c'est d'ordonner. C'est une parole d'Aristote que saint Thomas reprend constamment. Et vous ne direz jamais que le propre de l'homme vertueux, c'est d'ordonner. Mais non, regardez ces gens très très pieux qui mettent des petits cierges à saint Antoine. Regardez ces gens très dévots qui sont pris par toutes les dévotions possibles, imaginables, et qui en inventent pour en avoir plus, et qui en accumulent. C'est ordonné, ça. C'est pas ordonné du tout. Regardez. Alors, il y a des fanatismes religieux. Et le fanatisme religieux, c'est un manque d'ordre. La vertu de religion joue un rôle extrêmement important. Vous voyez, il est évident que le fanatisme est une maladie. C'est une maladie. Je vous ai dit, il y a deux maladies, hein, au point de vue religieux. Il y a le fanatisme et le scrupule. Alors, on voit très bien que le scrupule et le fanatisme montrent un désordre. Et la vertu de religion, par elle-même, n'ordonne pas. La vertu de religion a un pouvoir extraordinaire de capter notre affectivité vers Dieu. Donc, elle est très fondamentale. Elle est très fondamentale. Elle a un caractère très universel sous ce point de vue-là. Mais je ne peux pas dire qu'elle joue un rôle analogue à la sagesse. La question est intéressante. Hein, parce que nous avons une éthique de l'enfance, que je vais reprendre de très très bien. Éthique humaine. L'éthique humaine est commandée par la prudence. La prudence, l'éthique humaine est commandée par la prudence. Il y a ensuite l'éthique religieuse. L'éthique religieuse, on regarde le Créateur. Ce n'est pas seulement l'homme par rapport à l'homme, mais c'est l'homme par rapport au Créateur. L'éthique religieuse est commandée par quoi ? Par la sagesse. Contemplative. Ici, c'est l'amitié. La prudence est ordonnée à l'amour d'amitié. Et l'adoration est ordonnée à la sagesse. Alors vous pourriez dire, ah oui, la prudence est ordonnée à l'amour d'amitié et l'adoration est ordonnée à la sagesse. Donc il y a un ordre semblable. Oui, c'est tout à fait différent. Ici, c'est vraiment un ordre de l'intelligence pratique. L'intelligence pratique ordonne tout vers l'amour d'amitié. Et c'est vrai que l'amour d'amitié représente dans l'éthique humaine un certain absolu. Aimer l'ami comme le bien. Dans la sagesse contemplative, que toute sagesse est contemplative, n'oublions pas, la prudence n'est pas contemplative. Hein. La prudence n'est pas contemplative. Tandis que la sagesse est toujours contemplative. Alors, dans la sagesse contemplative, je regarde le Créateur. Et ce Créateur, je l'obtiens en premier lieu par le point de vue de l'adoration. L'adoration est quelque chose de fondamental. Et l'adoration, vertu de religion. La vertu de religion, c'est vrai, c'est quelque chose de fondamental du côté affectif. Ça conduit à la contemplation. Et la contemplation est commandée par la sagesse. Et la contemplation ordonne toute chose. Un contemplatif, dans la mesure même où il est contemplatif, ordonne toute sa vie. Comme un homme prudent est un homme qui ordonne tous ses moyens en vue de l'amour d'amitié. Donc il y a un parallélisme entre sagesse et prudence à cause de l'ordre. Je ne peux pas faire un parallélisme entre la prudence et la vertu de religion. La vertu de religion est quelque chose de fondamental. C'est du côté affectif. Ça n'ordonne pas la vertu de religion. Ça ordonne l'individu vertueux, mais ça n'ordonne pas mes moyens. Ça ordonne l'individu vertueux, c'est évident. Quand j'adore, je suis ordonné vertueux. Je suis tout entier polarisé par Dieu, je suis tout entier attiré vers Dieu. Mais je ne peux pas dire que j'ordonne mes moyens. Non, ça n'ordonne pas mes moyens. C'est du côté affectif. Et c'est pour ça que ça peut être à la source de fanatisme. La prudence, non, jamais. Et la sagesse non plus. La sagesse n'est pas fanatique. Tandis que la vertu de religion peut être fanatique. Pourquoi ? Parce que c'est l'affectivité. Alors, il peut y avoir des débordements affectifs. Esprit. Le mensonge, c'est derrière aussi. Bon. J'espère que vous voyez la différence. Il faut faire le filtre. Ça doit se fermer par derrière. Non, ça doit se fermer par derrière. Ça doit être derrière. Ah. On va le mettre en train. Un exercice pratique du fatchéré et d'agir. La vertu de religion est-elle une vertu intellectuelle ? Non. Tandis que la sagesse et la prudence sont des vertus intellectuelles. Et c'est pour ça que je peux faire un parallélisme entre les deux. L'intelligence est pratique, l'intelligence est contemplative. L'intelligence pratique est commandée par la prudence, l'intelligence spéculative, contemplative, est commandée par la sagesse. Donc la vertu de religion est-elle une vertu intellectuelle? Non. La vertu de religion n'est pas une vertu intellectuelle, c'est une vertu affective. Ce qui explique les débordements. Je ne pas dire, on dit bien que la piété est utile à tout, c'est Saint-Paul qui dit ça. La piété est utile à tout, oui, une piété qui est ordonnée sagement, elle est utile à tout. Mais il peut y avoir des désordres religieux. C'est très curieux, le fanatisme et le scrupule. La découverte de l'être premier n'étant pas une démonstration parfaite, et le fait de ne pas avoir l'expérience de cet être premier, ne nécessite-t-il pas une vertu religieuse de foi? Foi en la tradition religieuse. Oui. Et c'est délicat. Pour qu'il puisse y avoir vertu de religion. Je vous ai dit, la vertu de religion s'acquiert par l'adoration. Donc, ne raisonnons jamais sur les vertus. Jamais oublier ça. Hein. Ne raisonnons jamais sur les vertus. Raisonnons sur les actes qui sont source des vertus acquises. La vertu acquise, elle est déjà quelque chose de second. Donc il ne faut pas raisonner sur la vertu. Ça, c'est les stoïciens. Donc on ne raisonne pas sur les vertus, on raisonne sur les actes humains source des vertus. Qu'est-ce qui est source de la vertu de religion? L'adoration. Donc pour essayer de comprendre la condition sine qua non pour qu'il y ait vertu de religion, parce que c'est l'objection, pour qu'il y ait vertu de religion, on dit qu'il faut la foi. La foi dans les traditions religieuses. Alors je dis, ne regardons pas la vertu de religion. Regardons l'adoration. Qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'il y ait adoration? C'est que, au point de vue de ma connaissance, je sais que Dieu existe et qu'il est mon créateur. Même si cette connaissance est très imparfaite, même si cette connaissance est le fruit d'une connaissance analogique très imparfaite, au point de vue métaphysique, c'est suffisant. S'il n'y a pas la connaissance métaphysique, il y a la croyance dans les traditions religieuses. La croyance dans les traditions religieuses suffit pour qu'il y ait adoration. Mais Paris de Pascal, hein. C'est très net, le pari de Pascal montre bien que pour qu'il y ait adoration, il suffit tout simplement qu'il y ait une croyance dans les traditions religieuses. Et si je me mets à douter, je me dis, il vaut mieux hein, aller du côté que Dieu existe plutôt que du côté que Dieu n'existe pas. Parce que s'il existe, il vaut mieux que je dise qu'il existe. S'il n'existe pas, tant pis. Hein. Ça n'a pas d'importance. Hein. Donc, ça, pari de Pascal, on voit très bien la croyance dans les traditions religieuses. Ça suffit. Pour qu'il y ait adoration. Pas besoin de plus. Mais si j'ai une connaissance métaphysique de l'existence de Dieu, et si j'ai une connaissance philosophique de ce que représente le Créateur, cette connaissance philosophique suffit pour qu'il y ait adoration. Je n'ai pas besoin d'avoir l'évidence. J'adore Dieu en tant justement qu'il me dépasse complètement. Et donc j'adore Dieu en tant que je ne le connais pas pleinement et totalement, mais je sais qu'il existe, c'est suffisant. L'affectivité n'a pas besoin de connaître celui qu'on aime, on a besoin que de savoir qu'il existe. C'est comme ça, quand on aime quelqu'un, il suffit qu'il existe. Je l'aime, j'ai été séduit. Vous le connaissez? Ah non, je ne le connais pas, mais je sais. Mais je sais d'une connaissance aimante. Mais je ne connais pas exactement. Un psychologue dira, mais faites attention, attention, vous ne le connaissez pas. Faites des tests avant de voir. Regardez son écriture, faites de la graphologie, et regardez un peu. Celui qui aime pas du tout, ça lui est bien égal. Il aime. La connaissance de l'être qui existe suffit. Bien, pour Dieu, c'est la même chose. Je ne fais pas la graphologie de Dieu. Très bien difficile, n'est-ce pas? Comment c'est l'écriture de Dieu. Dieu qui a le doigt de Dieu qui a été écrit sur les tables de la loi. Alors là, on voit les effets de Dieu. Les effets de Dieu suffisent pour me dire que Dieu est infini, Dieu est infiniment bon, infiniment puissant, je l'adore, il est mon créateur. C'est tout. Donc, vous voyez, la question, là, et peut-être je reprends, la découverte de l'être premier n'étant pas une démonstration parfaite, d'accord, et le fait de ne pas avoir l'expérience de cet être premier, ne nécessite-t-il pas une vertu, ne nécessite-t-il pas une vertu religieuse de foi? Eh bien non, il n'y a pas de vertu religieuse de foi. Il y a la croyance dans les traditions ou il y a la connaissance métaphysique, l'un ou l'autre. Et si vous avez la connaissance métaphysique, vous n'avez plus besoin des traditions religieuses. Mais vous avez encore besoin de la foi surnaturelle, hein, comprenez bien. Et vous en avez encore beaucoup plus besoin. Vous comprenez beaucoup mieux ce que c'est que la foi surnaturelle si vous avez un peu de métaphysique. Parce que vous êtes normalement plus intelligent, et plus on est intelligent, plus on a besoin de la foi. N'y a-t-il pas une vertu religieuse correspondante au don de crainte? Le don de crainte, nous le verrons, le don de crainte, c'est par rapport à la vertu d'espérance, à la vertu théologale d'espérance. Les dons du Saint-Esprit se rattachent tous à l'agapé, à la charité, et non pas aux vertus morales. Tous les dons du Saint-Esprit, les sept dons du Saint-Esprit, les sept dons du Saint-Esprit, sont les sept esprits de Dieu. Et Emma proviennent de la charité. Cette flamme. C'est de la charité, c'est la vertu de charité. La vertu théologale de charité. De la vertu théologale de charité, source émane des sept dons du Saint-Esprit. Et donc, je ne peux pas expliquer les dons à partir des vertus morales. C'est pas le même niveau. D'un côté, c'est un niveau moral humain, et de l'autre côté, c'est un niveau divin, ça vient d'en haut. Tous les dons du Saint-Esprit proviennent d'en haut. Ça vient de la naissance d'en haut, de l'eau et de l'esprit. Donc, il ne faut pas confondre le don de crainte et la vertu de religion. Que je puisse comprendre que le don de crainte puisse avoir une certaine influence sur l'exercice de la vertu de religion. Peut-être. Je dis peut-être. Parce que je ne crois pas immédiatement. Vous voyez, le don de crainte peut m'aider à exercer mieux l'adoration. Parce que le don de crainte me donne une révérence à l'égard de Dieu, un respect à l'égard de Dieu. Donc, je peux adorer mieux. Alors, c'est l'exercice des vertus, et non pas la vertu elle-même. Petite nuance très importante. Bon. Suffisant. Nous allons continuer, si vous voulez, notre petite étude au point de vue proprement philosophique sur l'éthique religieuse. Je vous rappelle bien le but de cette étude, hein, pour que vous compreniez bien. Nous avons essayé de comprendre ce que représente l'éthique humaine. Et je vous ai déjà dit, j'aime mieux dire éthique humaine que éthique laïque. C'est la morale laïque. Hein, la morale laïque, ça ne va pas bien. Ça sonne mal. Parce que si on veut dire humain, c'est l'éthique humaine, c'est-à-dire l'homme en tant qu'il est responsable de ses diverses activités. Et l'homme est responsable de ses activités dans son dialogue, du
d'une personne à l'égard d'une autre personne. Et donc, c'est dans l'amour d'amitié que va se nouer
l'éthique humaine. Nous avons essayé de comprendre tout ce que représentait cette éthique humaine à ce niveau de l'homme par rapport à l'homme. La morale se noue, ou la morale apparaît, dans la relation d'un homme par rapport à un autre homme, dans la mesure où cet homme l'aime. Il n'y a pas d'éthique sans amour. C'est ça qu'il n'y a pas de l'éthique du devoir. C'est, tout de suite, le devoir, on ne l'aime pas toujours. Hein. Vous savez, quand on commence uniquement à bouger parce qu'on l'aime, quelquefois on reste longtemps. Tandis que le devoir, il y a une éthique. Le devoir fait partie de l'éthique. Le devoir fait partie de l'éthique. Mais il n'y a pas une éthique du devoir. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Comme si l'éthique commençait avec l'impératif catégorique. Ça, c'est Kant. Alors, il y a l'éthique du devoir pour Kant. Pour nous, il y a une éthique de l'amour. C'est très différent. Une éthique de l'intention de ma finalité. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'éthique. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de responsabilité. Très curieux. Et donc l'éthique naît à partir du devoir. Et donc c'est l'éthique de l'amour d'amitié. Donc ça, c'est très très important à bien comprendre. Une fois que je découvre l'existence de Dieu, d'un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu, l'homme acquiert une nouvelle dimension. L'homme acquiert une nouvelle relation. Il peut être relié, religare, il peut être relié, non plus à l'homme, mais à Dieu. Et c'est très très joli, c'est quand vous êtes lié à l'homme, vous ne dites pas du tout que c'est religieux. Parce que c'est consacré, c'est profane. C'est profane, c'est humain. C'est pas sacré. Le sacré apparaît à partir de la dimension religieuse. Le sacré, c'est ce qui est immédiatement relié à Dieu. Ce qui n'est pas immédiatement relié à Dieu n'est pas sacré. Je me souviens de la réaction violente de quelqu'un que je connais bien, qui est professeur de biologie, et qui a un sens de la vie étonnant. Alors pour lui, la vie est sacrée. Alors je lui dis non, la vie n'est pas sacrée. Si la vie était sacrée, vous comprenez très bien, la vache sacrée. Parce que la vache est vie. Et puis quand vous écrasez un petit insecte par terre, vous écrasez la vie. La vie n'est pas sacrée. La vie de l'homme est sacrée parce que l'homme est capable de remonter directement à Dieu. Le sacré, c'est ce qui est religieux. C'est ce qui est relié directement à Dieu. Donc vous pouvez dire l'éthique sacrée, si vous aimez Dieu. C'est-à-dire l'éthique religieuse. L'homme découvrant l'existence de Dieu, ou l'homme acceptant les traditions religieuses, l'homme comprend qu'il est capable d'être relié directement à Dieu. Et l'homme est relié directement à Dieu par l'adoration. Voilà le premier acte de l'éthique religieuse. C'est l'adoration. L'homme est capable de répondre au Dieu créateur. L'homme est capable de comprendre le don unique que Dieu lui fait en créant son âme spirituelle, et dès qu'il comprend ce don de Dieu, il répond en adorant. Et l'adoration, c'est une politesse à l'égard de Dieu. C'est la seule politesse. Dieu, on est poli quand on adore. C'est-à-dire en le laissant passer devant. Dans l'adoration, vous vous effacez pour laisser passer Dieu devant. Alors, d'une façon souveraine, vous vous laissez, vous prostrez pour laisser Dieu passer devant. Et c'est ce sens que l'adoration donne de la primauté de Dieu sur nous. Que Dieu est premier et que nous sommes totalement relatifs à Dieu. Et que nous sommes totalement dépendants de Dieu. Et nous aimons cette dépendance dans l'adoration. Donc l'adoration est un acte d'amour. Un acte d'amour d'un caractère tout à fait particulier, c'est un amour sacré qui remonte jusqu'à Dieu et qui fait que face au don du Dieu créateur, je réponds à ma manière, à la manière d'une créature. Et répondre à la manière d'une créature, c'est de reconnaître sa totale dépendance à l'égard de Dieu. C'est se remettre entre les mains de Dieu. Et manus tuas. C'est ça le propre de l'adoration. L'adoration va être à l'origine de la vertu de religion. La vertu de religion, elle n'est pas innée en nous. C'est une vertu que j'acquiers. Je deviens un être religieux. Ça, c'est aussi très important de se le rappeler. Je deviens un être religieux. Et nous sommes responsables de l'attitude religieuse qui est en nous. Parce que nous pouvons l'augmenter, l'intensifier, ou au contraire l'oublier. Des quantités d'hommes oublient leur dépendance à l'égard de Dieu. Parce que cette dépendance à l'égard de Dieu n'est justement pas une expérience. Si elle était une expérience, vous ne pourrez pas l'oublier. L'expérience que vous faites de chaque jour de manger fait que vous n'oubliez pas de manger. Tandis que vous oubliez Dieu. C'est comme ça. Les êtres humains n'oublient pas de boire et de manger, mais ils oublient d'adorer. C'est quand même un petit scandale, hein, ça. Étant donné que Dieu est source de ma vie, source de mon être, source de mon intelligence, source de mon amour, et je l'oublie. J'oublie la source radicale. Pourquoi ? Parce que, justement, je ne l'atteins pas immédiatement. Si j'atteignais immédiatement le Dieu créateur, je ne l'oublierais pas. Je ne pourrais pas l'oublier. Tandis que l'atteignant pas immédiatement, je peux l'oublier. Donc, l'adoration, la répétition d'actes d'adoration, fait que progressivement, j'acquiers la vertu de religion. Et la vertu de religion doit être acquise progressivement pour devenir un être religieux. Tout homme digne de ce nom doit être un être religieux. Ça fait partie des dimensions essentielles de l'homme. Et donc, supprimer ce développement religieux de l'homme, c'est mutiler l'homme. C'est donc nécessairement le mettre dans un état de désordre. C'est donc nécessairement être source d'une attitude réflexive qui fait que des complexes vont être présents. Qu'est-ce que c'est qu'un complexe ? C'est l'arrêt d'un appétit naturel. L'arrêt d'un appétit naturel en faisant tout simplement un transfert. On peut faire croire que ce n'est pas Dieu qui est sauveur, que ce n'est pas Dieu qui est mon créateur, mais que la création de mon âme provient tout simplement des causes secondes. Et donc je n'ai plus de créateur. Et je transfère ça sur le respect de l'État, de la communauté politique, et ainsi de suite, ou le progrès de la science. On fait un transfert. Et faisant un transfert, on va détraquer l'homme dans ce qu'il a de plus fondamental. Et je crois que ça, c'est très très important pour nous. Les psychanalystes meilleurs d'aujourd'hui découvrent que ce qui détraque le plus l'homme, c'est de l'arrêter dans son appétit naturel religieux. Parce que l'appétit naturel religieux est ce qu'il y a de plus profondément inscrit en nous. Et donc, nécessairement, arrêter l'appétit naturel religieux, c'est ce qui met le plus grand désordre en nous. C'est pour ça qu'on ne peut se rééquilibrer qu'en redécouvrant l'adoration, 7 fois par jour. C'est-à-dire vous remettre dans une attitude de vérité. L'attitude de vérité consiste à adorer Dieu. Alors, il faut du temps dans un monde où, justement, on ne veut pas regarder cette vérité pour redécouvrir cette vérité. L'adoration va perfectionner ma volonté, ennoblir ma volonté en donnant naissance à la vertu de religion. La vertu de religion, c'est donc une détermination fondamentale de ma volonté tournée vers Dieu. Détermination fondamentale de ma volonté tournée vers Dieu. Pour reconnaître que je suis totalement dépendant de Dieu. Et la vertu de religion est nécessaire à cause de l'imagination qui risque toujours de me faire oublier le Dieu créateur. Nous avons développé ça. Nous sommes demandé ensuite quelle est la vertu nouvelle de l'éthique religieuse. La seconde, la vertu numéro 1, c'est la vertu de religion. La vertu numéro 2. J'essaie de comprendre ce qui caractérise l'éthique religieuse, ce qui la différencie de l'éthique humaine. Je dis que c'est la vertu de religion, que c'est l'adoration et la vertu de religion. Je dis en second lieu que ce qui apparaît en second lieu dans l'éthique religieuse, c'est la vertu de l'obéissance. Nous allions commencer ça, je crois. La vertu d'obéissance. La vertu d'obéissance est une vertu acquise. Vous n'êtes pas naturellement vertueux en ayant l'obéissance. Non. Le gosse dans le berceau n'a pas la vertu d'obéissance. Et quelquefois, en arrivant au noviciat, on n'a pas la vertu d'obéissance. On doit l'acquérir par des jouissements. Mais ça met du temps. Parce que c'est vrai, si on appartient à une famille profondément chrétienne, on nous a fait obéir au point de départ en mangeant notre soupe, on nous a exercé l'obéissance. Allez, mange ta soupe. Premier acte d'obéissance, c'est ça, c'est manger sa soupe. On ne voulait pas du tout, on n'a aucune envie du tout. Mais prends ta soupe. Si tu ne prends pas ta soupe, tu n'auras pas de dessert ce soir. Alors, c'est obligé de prendre sa soupe. C'est pour ça que la soupe a toujours une odeur d'obéissance. Alors, c'est quelque chose de particulier. C'est vrai que l'obéissance a été d'abord une obéissance dans des détails très simples de notre vie, pour acquérir un pli de la vertu d'obéissance. Mais il peut très bien se faire que, de fait, on ne nous a jamais appris à obéir. Et on a entre noviciat régime d'obéissance. Alors, c'est pas commode, hein? Rééducation, la rééducation de l'obéissance. C'est une rééducation de l'obéissance. Ici aussi, c'est par des actes d'obéissance que j'acquiers la vertu d'obéissance. Alors on va regarder qu'est-ce que c'est que l'acte d'obéissance et essayer de comprendre comment l'acte d'obéissance va acquérir dans une éthique religieuse une dimension nouvelle. Il y a un problème très intéressant. Très, très intéressant à voir. Est-ce que dans l'éthique humaine, il y a une place à l'obéissance? Le vieil Aristote, parce que c'est le premier qui nous a donné l'éthique, le vieil Aristote dit que l'obéissance est naturelle pour l'enfant et pour la femme. Il dit ça, je répète. J'ai dit, mais l'auteur, hein, l'obéissance est naturelle pour l'enfant et la femme. Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas encore de vertu de prudence. Et que la femme, étant facilement très passionnée, n'a pas non plus de vertu, de prudence. Et depuis, il y a eu un progrès, et les femmes ont la vertu d'obéissance, de prudence. Alors, maintenant, on peut considérer qu'Aristote est de son temps. Dans ce domaine-là, je peux le dire, Aristote est de son temps. Donc, Aristote considère que la vertu d'obéissance n'est pas une véritable vertu. C'est la vertu de l'imparfait. Or, la vertu n'est vraiment vertu quand c'est la vertu du parfait. Donc, au fond, dans l'éthique humaine, est-ce que nous pouvons, dans l'éthique purement humaine, établir une vertu d'obéissance? Ou est-ce que la prudence ne suffit pas? Ce que je croirais. Je crois que, au sens très précis, l'éthique humaine ne me met pas en présence de l'exigence de l'obéissance. Elle ne me met en présence de l'obéissance qu'au niveau de l'éducation. L'éducation exige l'obéissance. C'est bien évident. Mais dans l'éducation, qu'est-ce qu'on a? On a un être imparfait qui se soumet à un être parfait, soi-disant parfait. C'est ça l'éducation. C'est un être imparfait qui se soumet à être parfait. Et la vertu, l'éducation, elle est passagère. On n'éduque pas tout le temps. On éduque de tel âge à tel âge. Puis après, quand vous êtes arrivé à un certain âge, vous quittez l'école maternelle pour arriver à vous débrouiller tout seul. Et alors à ce moment-là, l'obéissance va donc, au fond, dans l'éthique humaine, je ne peux pas dire que l'obéissance et la vertu d'obéissance soient une vertu qui ennoblit l'homme comme homme. C'est une vertu nécessaire pour acquérir la prudence. Mais ce n'est pas une vertu au sens absolu. Je crois qu'on doit dire ça au point de vue éthique humaine. Et c'est très important. Très important de dire ça. Parce que je crois qu'il y a des quantités d'obstacles qui disparaissent dès qu'on a compris cela. Mais comprenez bien, au niveau éthique humaine, commandé par l'amitié. L'amitié n'implique pas l'obéissance. Moi, je n'obéis qu'à mon ami. Ça veut dire que vous obéissez à tout. Parce que l'ami comme tel n'a pas l'autorité à me faire obéir. J'obéis à mon ami parce que je l'aime. Puis alors, c'est très bien. On est toujours d'accord. C'est pour ça que j'obéis tout le temps. On est tout le temps d'accord. Il est très intelligent, mon ami. Alors, il ne peut dire que des choses qui me conviennent, parce qu'il me connaît. Tandis que vous, vous ne me connaissez pas, vous n'êtes pas mon ami, donc vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez pas dire des choses qui sont en connaturalité vis-à-vis de moi. Alors, quand j'obéis à mon ami, en réalité, je n'obéis pas. L'obéissance ne repose pas sur l'amitié. L'amitié est plus que l'obéissance. C'est une communication amicale d'amour. Et donc, je crois qu'on doit dire qu'au niveau de l'éthique humaine, je dis ça parce que je crois que c'est un très gros problème que je soulève là. C'est un problème très intéressant. Au niveau éthique humaine, je crois qu'on ne peut pas établir la vertu d'obéissance. L'obéissance est uniquement un moment nécessaire pour que l'éducation ait lieu. L'obéissance est nécessaire pour cette coopération qui existe dans l'ordre de l'éducation. Dans l'ordre de l'éducation, il y a une certaine coopération entre celui qui éduque et celui qui est éduqué. Entre l'imparfait et le parfait. Ce n'est pas une vertu. Dès que je suis en éthique religieuse, est-ce que l'obéissance apparaît comme une vertu? Je peux dire que dans l'éthique religieuse, j'ai un regard de sagesse vis-à-vis de l'homme. Et je considère que l'homme est en relation directe vis-à-vis de Dieu et qu'il y a dans le cœur de l'homme une certaine connaturalité vis-à-vis de Dieu. Je peux considérer que Dieu peut exprimer certains aspects des exigences profondes de ma nature. Je peux appeler une loi naturelle. En éthique religieuse, apparaît la loi naturelle. Pas en éthique humaine, mais en éthique religieuse, apparaît la loi naturelle. Cette loi naturelle, elle est inscrite au plus intime de moi-même. Et par cette loi naturelle va apparaître l'obéissance. Et la vertu d'obéissance va pouvoir naître comme une exigence de mon état de créature. C'est la créature qui, comme telle, implique la vertu d'obéissance. Or, la créature n'est pas un état passager. Je ne passe pas de l'état de créature à l'état divin, de l'imparfait vers le parfait, comme pour l'éducation. La loi naturelle, elle m'éduque tout le temps. Et parce qu'elle m'éduque tout le temps, elle m'éduque dans ce qu'il y a en moi de plus fondamental, et de plus profond, et de plus parfait. Et donc, à partir de ce moment, je peux dire que l'obéissance prend une nouvelle dimension parce qu'elle est reliée à la loi naturelle. C'est ça que je voudrais que vous compreniez, parce que ça, ça me semble très important. On va essayer d'étudier ces points pour bien comprendre comment, dans l'éthique religieuse, la vertu d'obéissance apparaît comme une vertu qui ennoblit l'homme en tant qu'il est une créature. Alors, le premier point qu'il faut essayer de comprendre, c'est que dans une éthique religieuse, on peut parler de loi naturelle. Tandis que dans une éthique humaine, je ne peux pas parler de loi naturelle. De loi naturelle qui vient de Dieu, qui vient de la sagesse de Dieu, qui est le reflet de la sagesse de Dieu. La loi naturelle, c'est le reflet de la sagesse de Dieu, au plus intime de moi-même. C'est la loi divine en moi, si vous voulez. Donc c'est le reflet de la sagesse de Dieu en moi. Cette loi divine a pu être révélée où les traditions religieuses peuvent la transmettre. Quand je suis en face du décalogue, je suis en face de lois naturelles exprimées par Dieu. Mais le contenu du décalogue, mon intelligence humaine est capable de le comprendre. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi naturelle ? La loi naturelle, c'est de comprendre que Dieu, mon Créateur, m'a créé selon les exigences de sa sagesse. L'acte créateur de Dieu est un acte d'amour et un acte de sagesse. En tant qu'il est un acte d'amour, il réclame l'adoration. En tant qu'il est un acte de sagesse, il réclame l'obéissance. Tout ça est impliqué dans le mystère même de la création. Dieu comme créateur, il est source de ce que je suis, de mon être, de mon âme spirituelle, dans un amour de surabondance. Et je réponds à cet amour de surabondance par un nouvel amour, non pas de surabondance, mais un amour d'adoration. Comprenez bien ce parallélisme, parce que je crois qu'il est très éclairant. Je réponds à l'acte créateur de Dieu en tant qu'il est un acte d'amour par l'adoration. Mais cet acte créateur de Dieu est aussi un acte de sagesse. Tout ce que Dieu fait implique foi, mesure et nombre. Tout ce que Dieu fait implique un certain ordre. Parce que Dieu agit toujours selon sa sagesse. Et donc Dieu va mettre dans sa créature un appétit naturel vers le bien. Et cet appétit naturel vers le bien va de fait se présenter selon certaines modalités ou certains niveaux. La loi naturelle, c'est de découvrir en moi, au plus intime de moi, cet appétit naturel vers le bien. Ça fait partie de la loi naturelle, cela. C'est cette découverte au-dedans de moi-même. Cet appétit naturel. Cet appétit naturel est le reflet de la sagesse de Dieu. Ça, je peux le dire dans un regard de sagesse. Donc, je peux le dire ayant découvert l'existence de Dieu, ayant découvert l'existence du Créateur. Je peux dire qu'il y a en moi un reflet de la sagesse de Dieu et que ce reflet de la sagesse de Dieu, je le saisis à travers cet appétit naturel. Cet appétit naturel d'adoration, cet appétit naturel de justice, cet appétit naturel de piété filiale à l'égard des parents, d'appétit naturel à l'égard du prochain. Je dois l'aimer. Il y a donc une découverte que je fais progressivement dans la lumière de cette sagesse divine, de cet ordre qui existe en moi, de ces différents appétits naturels. Et l'acceptation de cet appétit naturel se fait dans l'obéissance. J'obéis à ces exigences de l'ordre naturel, qui est un ordre de sagesse de Dieu. Vous voyez que là, je suis en présence d'un acte nouveau qui est un acte d'obéissance. Parce que je suis en présence d'une nouvelle autorité. D'une autorité qui vient d'en haut. D'une autorité qui s'appuie sur le Créateur, qui est la sagesse du Créateur. Cette sagesse que je connais à partir de mes appétits naturels. Cette autorité s'impose à moi d'une manière telle qu'elle m'éduque pour savoir les actes qui sont bons et les actes qui sont